Alors ce matin, je vous invite à lire avec moi un passage dans Philippiens, chapitre 2. Pendant que vous cherchez ce passage, je profite aussi pour dire que dans les semaines à venir, il y aura des cours de baptême, de préparation de baptême qui vont être mis en place. Donc, si vous posez la question de vous faire baptiser, ou si vous connaissez quelqu'un qui se pose la question, ou si vous posez des questions au sujet du baptême sans encore savoir si vous aimeriez vous faire baptiser ou non, alors n'hésitez pas à me contacter pour que je vous ajoute à la liste des personnes concernées dans l'optique donc de pouvoir baptiser ceux qui ont pris cette décision de marcher avec le Seigneur. Donc, Jésus nous dit que le déroulement normal, c'est d'entendre l'Évangile, de croire dans l'Évangile, de confesser ses péchés, de s'en repentir et de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, profitons de cette occasion si ça peut vous concerner. Alors normalement, vous avez bien eu le temps de trouver Philippiens chapitre 2, donc on va lire à partir du verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Alors, tout à l'heure, je vais juste changer un instant l'image. Il y a quelques instants, est-ce que vous avez chanté pendant qu'on chantait ce chant?
Oui.
Est-ce que vous avez chanté avec ton esprit, nous aurons la puissance pour vaincre la chair? Oui. Alors, pourquoi l'avez-vous chanté?
Parce que c'est la vérité.
Voilà. Donc, au moins une personne qui y croit, parce que finalement, comme je dis souvent, ce n'est pas franchement très bien de venir à l'église le dimanche et puis de passer son temps à mentir simplement parce que on suit les paroles qui sont écrites sur l'écran. L'objectif, oui.
Moi, je me pose la question, pourquoi on le mettait au futur?
Ah oui, on pourrait aussi dire nous avons.
On dire nous avons la puissance.
Oui, absolument. On peut dire nous avons la puissance pour vaincre la chair. Alors, si on a chanté ces paroles sans mentir, cela implique plusieurs constats. Premièrement, ça implique le fait qu'on croit que l'objectif de Dieu, c'est qu'on arrive à vaincre la chair. Amen. Si on a chanté avec ton esprit, nous aurons, ou même peut-être vous avez modifié dans votre cœur les paroles pour dire nous avons la puissance pour vaincre la chair. Ça suggère aussi que vous êtes partie prenante, que vous avez envie que Dieu nous aide à vaincre notre chair. Et que donc, vous avez invité le Seigneur par son esprit à venir habiter dans votre corps pour transformer votre vie, votre corps, pour justement vaincre la chair. Merci, Jethro. On peut passer à nouveau à l'autre. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, donc, nous avons vu que Jésus a accompli sa mission qui était de venir sur la terre dans le but de mourir puis de ressusciter pour offrir la possibilité à tous d'être sauvés par lui. Mais on a également vu qu'un aspect de ce salut que Jésus est venu apporter, c'est ce qu'on appelle la sanctification, le fait de devenir saint, le fait d'abandonner le péché, pas uniquement en parole, pas juste de faire une confession simple pour dire « Bon, ben, Seigneur, je te confesse ce péché, pardonne-moi, comme ça, tout est nettoyé et je peux recommencer. » Le but, c'est de nous sauver, non pas uniquement des conséquences de notre péché, mais de nous sauver du péché. La victoire que Dieu veut accomplir dans notre vie implique également, comporte également le fait de nous transformer, de nous changer, de nous sauver du péché, de nous sortir du péché. On vient de lire dans ces versets que l'objectif de Dieu pour nous, c'est qu'on devienne des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue. Autrement dit, d'être différent dans un monde qui est pécheur. Donc de ne pas être comme le monde, de ne pas être au reflet du monde. Tout à l'heure, j'ai parlé de Dieu qui nous sauve dans l'objectif qu'on reflète la gloire de Dieu. Il veut qu'on reflète sa personne, qu'on reflète sa gloire, non pas qu'on reflète la société dans laquelle on se trouve,
amen.
Et qu'en nous regardant, franchement, il n'y a pas de différence. Il veut qu'on brille dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Mais donc, comment est-ce que cela se réalise dans la pratique? Parce que parfois, quand on parle de sanctification, ça devient une espèce de fardeau très lourd sur nous, où finalement, on passe une vie assez misérable, une vie triste, où on est tout le temps en train devoir repasser chez le dentiste, changer de dents. Où on passe notre vie à se psychanalyser. Voilà, j'ai pu le sentir. En se disant, qu'est-ce que j'ai encore fait? Est-ce que je vais être assez bon? Et est-ce que je vais y arriver? J'ai toute cette liste de choses que je dois faire. Je ne sais pas si j'en suis capable. Ça peut devenir quelque chose de très lourd, de très pesant. Finalement, un peu comme Jésus disait aux pharisiens, vous écrasez les gens sous vos règles et sous ce fardeau de ce qu'eux, ils appelaient la sanctification, la sainteté. Mais finalement, nous voyons dans la Bible que Dieu nous offre une autre réalité. Effectivement, ce qu'il veut, c'est notre sanctification, mais il nous dit, moi, j'ai pourvu à cela. C'est pour cela, justement, que nous venons de chanter, avec ton esprit, nous aurons, où nous avons la puissance de vaincre la chair. Parce que finalement, c'est lui qui a pourvu à tout ce qui est nécessaire pour nous aider. On a donc vu la semaine dernière que la Bible nous dit que Dieu est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à lui en Jésus-Christ. On a vu que c'est Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas quelque chose que nous devons essayer de faire par nous-mêmes, parce que la Bible est tout à fait claire dès le début, nous ne pourrons pas nous sauver nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes simplement par le fait d'être humains, d'être descendants d'Adam et Ève avec le péché qui est entré dans l'humanité, et donc nous sommes tous pécheurs, avons-nous vu le week-end dernier. Mais on a vu que la bonne nouvelle, si les apôtres ont pu appeler leur message la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu ne nous demande pas de nous sauver nous-mêmes, de gagner notre salut. Il dit, c'est moi qui ai fait ce qui vous est impossible. Éphésiens chapitre 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage et ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc si ce matin vous vous sentez écrasé avec, par la pensée « il faut que je sois suffisamment bon pour que Dieu m'accepte », permettez à Dieu ce matin de vous dire « débarrassez-vous de ce fardeau. Je ne vous demande pas de mériter, de gagner le salut. Je vous l'offre par ma grâce et il est accessible par le moyen de la foi. » Dans Philippiens 2, verset 13 qu'on vient de lire, il souligne le fait que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est par sa grâce qu'il agit et qu'il nous offre tout ce qui concerne le salut. Nous ne pouvons donc pas le mériter par nos œuvres. On a vu dimanche dernier, c'est fondé dans l'œuvre parfaite de Christ. Cela nous libère de ce fardeau d'espérer qu'on a été suffisamment bon dans la vie pour mériter le salut. D'une part, parce qu'il nous dit, détrompez-vous, vous ne serez jamais suffisamment bon pour mériter le salut. Si votre espérance, c'est dans le fait d'être suffisamment bon à la fin pour qu'au jour de jugement, Dieu dit, je vois que quand même tu as fait quelques efforts, donc allez, on va te laisser passer. La Bible nous dit, détrompez-vous, vous êtes perdus. Parce qu'il n'y a aucune espérance dans notre nature propre pour être sauvés. Mais Dieu nous dit que le salut est fondé dans l'œuvre parfaite de Jésus et cela nous libère parce que ça veut dire que en tout temps, il y a ce sacrifice parfait qui couvre ma vie, qui couvre mon péché, qui ôte mon péché. Et rien ne peut en quoi que ce soit diminuer la perfection du sacrifice de Jésus. C'est pour ça qu'on peut parler, que les apôtres ont pu parler de cette confiance que nous avons devant Dieu le Père lorsque nous venons à lui couverts par Jésus-Christ. Confiance parce que nous sommes couverts par un sacrifice parfait. Pour cela que la Bible peut nous parler de cette assurance du salut. Parce que c'est toujours fondé sur l'œuvre parfaite accompli, nous dit la Bible, une fois pour toutes par Jésus qui couvre notre péché. Pour ça que sur la croix, Jésus ait pu dire « Tout est accompli, l'œuvre est terminée, il a mis le point final. » Et donc, si Christ est ressuscité, c'est la preuve que Dieu le Père a accepté son œuvre, a accepté son sacrifice parfait, qui ne peut plus changer, qui ne peut plus être modifié parce qu'il est accompli une fois pour toutes. Et on a vu que la Bible nous dit que ce salut donc est accessible par le moyen de la foi. Donc, sans la foi, malheureusement, nous dit le Nouveau Testament, même cette œuvre, ce sacrifice parfait de Jésus, reste vain, reste inutile pour nous. Il faut qu'on l'accepte par la foi, qu'on s'accroche par la foi à Jésus, car tout est en Jésus. Mais la foi que nous avons, foi en Dieu, ne se limite pas uniquement à ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le cœur de l'Évangile. ce dont Paul parle au début de 1 Corinthiens 15, quand il parle de la mort et de la résurrection de Jésus, qui sont le fondement de notre salut. Dieu, certes, a conçu ce plan, a accompli ce plan, nous a révélé ce plan, mais il nous a révélé beaucoup plus aussi. Parfois, on limite la révélation de Dieu, où on pense que la foi ne concerne que cette partie centrale de l'Évangile, le fait que Jésus est mort et ressuscité pour moi, donc il y a ce sacrifice parfait qui me couvre. Le même Dieu qui a révélé le fait que Jésus est mort pour nous, a également révélé que son objectif, une fois que nous sommes unis à Jésus, c'est qu'on devienne comme Jésus, qu'on soit sanctifié, qu'on devienne saint, qu'on se débarrasse de nos péchés. Et c'est le Dieu qui a révélé le cœur de l'Évangile est digne de notre confiance, au point qu'on croit qu'il dit vrai lorsqu'il dit que Jésus est mort pour nous et que le sacrifice de Jésus est suffisant pour couvrir notre péché. S'il est digne de confiance pour cela, il est également digne de confiance lorsqu'il nous dit « Ce que je veux, c'est votre sanctification. Et j'ai autant prévu à votre sanctification qu'à votre salut éternel. » Et si nous avons foi lorsque Dieu nous dit cela, la foi n'est jamais théorique, la foi est toujours et implique toujours un aspect pratique. La foi va se voir dans notre manière de vivre. Je prends souvent cet exemple. Lorsque vous quittez la salle, si en partant je vous dis « faites attention parce qu'on a creusé un grand trou devant la porte », vous pouvez me dire « ah ben oui, ben merci, je te crois ». Mais comment est-ce que je vais savoir que vous me croyez? Ça va être quand je vous vois sortir de la porte. Si vous sortez comme si rien n'était, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais vous ne me croyez pas. Vous n'avez pas foi dans ce que je vous dis. Si vous avez foi dans ce que je vous dis, vous allez faire attention parce que vous allez dire « Ah oui, il m'a prévenu qu'il y a un trou. Donc j'ai intérêt à ne pas tomber dans le trou. » Avec Dieu, lorsque nous disons que nous avons foi en lui, si réellement j'ai foi en lui, ça va se voir parce que je vais vivre en conséquence de ce qu'il me dit. Donc si Dieu me dit que ce qu'il veut pour moi, c'est ma sanctification, alors je vais agir différemment parce que je crois que ce que Dieu veut pour moi, c'est que je deviens saint, c'est que je deviens comme Jésus-Christ. L'apôtre Paul, souvent dans ses épîtres, prenait ce modèle. Il disait, voici ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et si nous croyons à cela, voici la conséquence que cela aura, voici ce que ça changera dans notre manière de vivre. Donc on l'a vu le week-end dernier, Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, parce qu'il venait de démontrer que c'est par l'Esprit que Dieu nous a donné la vie, il dit alors, marchons aussi selon l'Esprit. Si vous dites que vous avez reçu la vie, communiqué par l'Esprit de Dieu, mais que vous vivez comme si vous étiez quelqu'un de mort spirituellement, il dit, comment est-ce que vraiment vous pouvez dire que vous croyez avoir reçu la vie de la part du Dieu Saint? Si vous avez cette vie en vous, si vous croyez que Dieu vous a donné cette vie, marchons aussi selon l'Esprit, en fonction de ce que vous croyez. Donc finalement, ce qu'on peut appeler la manière chrétienne de vivre, ce style de vie que Dieu nous communique dans sa parole, que Dieu nous révèle dans sa parole, n'est pas censé être opposé à la foi. Ce n'est pas soit je vis la vie chrétienne pour être agréable à Dieu, ou j'accepte le salut accompli par Jésus. C'est censé être une conséquence de la foi. Je crois que Dieu m'a sauvé par le sacrifice parfait de Jésus. Je crois que la mort de Jésus me montre quelle est la vision de Dieu du péché, ce que Dieu pense du péché, que cela offense tellement Dieu et est tellement contre sa justice qu'il a même dû mettre à mort son propre Fils unique sur la croix pour couvrir mon péché. Donc, par la suite, je vais collaborer avec lui pour vaincre ce péché qui est accroché à ma chair. Parce que je crois que si le Dieu Saint a donné son Fils pour me sauver du péché, alors j'ai tout intérêt maintenant à marcher dans le sens de ce que lui me montre être bien ou mauvais. Donc, ce qu'on voit dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. « Mettez en œuvre votre salut » n'est pas une méthode pour gagner ou mériter notre salut. C'est simplement un constat qui dit « Dieu vous a sauvé, Dieu vous a donné par sa grâce, par le moyen de la foi, le salut. Donc maintenant, si vraiment vous croyez avoir reçu ce salut, mettez ce salut en œuvre, mettez ce salut en action, mettez ce salut en pratique dans votre manière de vivre. C'est donc la conséquence de croire que Dieu veut nous sanctifier, comme il le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, entre autres. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Si j'ai foi en Dieu, je crois que cette phrase est vraie, qu'il a inspirée chez l'apôtre Paul, et donc je vais dire, je vais collaborer avec lui dans ce sens. Par la foi, je vais croire que ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est que je devenais saint, c'est que, effectivement, je m'abstiens des choses qui sont liés à ma chair, qui sont les manifestations du péché liées à ma chair, et je vais chercher à collaborer avec lui pour devenir saint. On a vu dans les versets 15 et 16, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit transformé, et qu'en tant que chrétien, on ne soit pas à l'image du monde, qu'on ne se fonde pas dans la société en général, mais qu'on soit différent, qu'on soit des gens un peu bizarres, entre guillemets, non pas parce qu'on a forcément un langage très chrétien et qu'on se promène toujours avec une énorme Bible sous notre bras, mais parce que on ne vit pas comme les autres. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas les mêmes comportements. On est parfois choqué par les choses qui ne choquent pas dans le monde. Et que nous, on ne les suive pas, nous ne les suivons pas dans leur manière de faire. Verset 15, « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Parce que nous reflétons la gloire de Dieu et la pensée de Dieu et la manière de vivre de Dieu. C'est ce que Paul va dire ailleurs. Il dit, si vous devez être embêté, que ce ne soit jamais parce que vous avez commis tel ou tel délit ou parce que même vous vous êtes mêlé de ce qui ne vous concernait pas, mais parce que les gens sont gênés du fait que vous ne les suivez pas dans leur péché, ils sont gênés par le fait que vous vivez pour le Seigneur et que vous reflétiez le Seigneur, que ce soit finalement Christ en vous qui les gêne, pas simplement votre caractère difficile, mais Christ en vous qui gêne. Si donc par la foi, j'accepte et je crois que Dieu veut en me sauvant que je sois différent. Alors, là à nouveau, il y a une question essentielle. Comment est-ce que je vis cette victoire? Comment est-ce que je puisse vaincre la chair? Parce que là encore, on peut accepter le salut en Jésus-Christ et tout de même se trouver écrasé par le fardeau de vouloir être à la hauteur et de se dire, ben, est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que je trouve au fond de moi suffisamment de force, suffisamment d'effort pour tous les jours vivre à la hauteur de cet appel que Dieu a mis sur ma vie? Ben, la bonne nouvelle là encore, c'est que comme pour la question du salut, finalement cette question ne dépend pas de moi, de mes capacités, de mes efforts, parce que finalement la Bible me dit que au niveau de ma sanctification, je ne peux pas avoir plus d'espoir en moi-même que pour le salut. Je ne vais pas mieux réussir à être saint que je vais réussir à mériter, à gagner le salut. La question doit plutôt être, est-ce que j'ai la foi pour mettre la parole de Dieu en pratique? Et quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens de dire, ben, est-ce que quelque part, à l'intérieur de moi-même, j'arrive à produire suffisamment de foi et j'arrive à trouver cette puissance quelque part en moi pour le faire. C'est simplement, est-ce que je crois que c'est ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que je crois que Dieu a effectivement fait la promesse dont j'ai chanté tout à l'heure, qu'avec son esprit, j'aurai la puissance qui est en moi, qui ne dépend pas de moi, mais qui est en moi parce que son esprit qui vient habiter en moi pour vaincre la chair. Et finalement, comme toute foi a des conséquences pratiques, ben c'est Dieu qui me sauve parfaitement, me dit la Bible, mais c'est à moi de me perfectionner, ou plutôt de laisser Dieu me perfectionner en collaborant, en marchant avec lui. Donc, comme on a vu que le salut, cette bonne nouvelle, devient effectif lorsqu'on l'accepte avec foi, ben, l'appel aussi à être saint doit être accepté avec foi. Exactement la même démarche, exactement de la même manière. Donc, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Dieu qui, selon le verset 13, produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. L'apôtre Paul nous dit, c'est comme pour recevoir la vie nouvelle. Pour recevoir la nouvelle naissance. C'est croire, c'est venir à Dieu avec cette foi que lui va faire ce qu'il a dit, qu'il est fidèle à sa parole et à ses promesses et qu'il a la puissance de réaliser ses promesses. Et donc, il y a cette notion pratique dans le fait où donc il me le demande. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, me dit l'apôtre Paul. Il veut donc me sauver. C'est Dieu qui l'accomplit, mais lui, il n'a pas besoin de se sanctifier. Il est parfaitement saint. C'est ma vie qui doit changer. Ce n'est pas lui qui doit changer quoi que ce soit, c'est ma vie qui doit être transformée. Ce qu'il veut, c'est que je me mette à son service parce que je crois qu'il m'a racheté. Donc, selon Paul, si nous croyons que Dieu nous a sauvés, nous devons aussi croire qu'il désire qu'on soit différent du monde et croire qu'il a mis entre nos mains ce qui rend cela possible, qu'il nous donne le vouloir et le faire, selon son bon plaisir, qui est une autre phrase pour dire par sa grâce. Il y a donc cet appel à être irréprochable, ce qui est totalement impossible à la nature humaine, mais pour lequel nous pouvons faire appel à l'esprit. Donc, au lieu d'être écrasé par cet appel à être irréprochable et dire « Oh là là, je ne vais jamais y arriver », on est appelé à croire que ben, si Dieu peut me sauver, il peut aussi m'aider à me débarrasser de mon péché. Il peut aussi m'aider à devenir saint. Il peut m'aider par son esprit, qui est le même esprit qui était en Jésus-Christ, à devenir comme Jésus-Christ. Parce qu'il est capable de produire en moi le vouloir et le faire. Donc je n'ai pas besoin de pouvoir lui dire « Ah ben Seigneur, tu vois que moi je suis quelqu'un de très fort. » Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est que lui, il est le plus fort, que lui, il a la puissance et qu'il mette cette puissance à ma disposition et puis donc que je collabore avec lui. Dieu ne nous transforme pas en robots. Il nous appelle à collaborer avec lui de manière volontaire, tout comme il ne nous force pas à accepter le salut. Il nous offre le salut. Il nous présente l'évangile et il fait appel à la foi. De la même manière, il ne nous force pas à être saints. Mais il dit, voici ce que je veux pour vous. Ce que je veux pour vous, c'est votre sanctification. Parce que moi, le Dieu saint, j'ai démontré par la mort de Jésus ce que je pense du péché. Quelle est la conséquence du péché? Et ce que je veux, c'est que vous entriez en moi, le Dieu saint, que vous reflétiez ma gloire, le Dieu saint, et que donc vous, vous soyez saints comme moi je suis saint. Et puis, nous voyons dans ce verset, si nous sommes prêts à mettre en œuvre notre salut, lui, il est prêt à donner le vouloir et le faire pour nous aider à le réaliser. Mais, comme pour le salut, il dit bah, à vous de me montrer si vous avez la foi ou non. Comme j'ai dit, si je vous dis de faire attention du trou devant la porte, à vous de me montrer par votre comportement si vous me croyez ou non. Dieu, c'est pareil. Il y a une histoire intéressante dans Josué chapitre 3, lorsque Israël était sur le point d'entrer dans la terre promise. Et ils arrivent devant le fleuve Jourdain, et la Bible nous dit qu'à cette période de l'année, la fleuve était particulièrement forte, la fleuve était inondée partout, toute la région autour, tellement il y avait d'eau. Dieu dit, vous allez traverser cette rivière. Il dit, à ceci vous reconnaîtrez, donc Josué dit en Josué 3:10, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phérisiens, les Guirgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. » Je dis hier soir, on comprend qu'Israël peut-être avait un peu peur à voir tous ces peuples rangés contre eux. « Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. » Ils ont dû se dire « Ouf !» Ben, ça va être comme le passage de la mer Rouge. Il suffira que Josué secoue la verge de Moïse par-dessus l'eau. Tout va se séparer et nous allons traverser à sec. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, et là, à mon avis, les sacrificateurs, ce sont des minces alors. Que Dieu agisse à l'avance, que tout soit bien sec, qu'il n'y ait aucune eau en vue. Là, on est prêt à traverser en portant l'arche de l'Éternel sans problème. Mais là, tout d'un coup, Dieu leur demande de marcher dans une rivière en crue et de commencer à traverser. Il dit, et lorsque vous commencez à traverser, les eaux du Jourdain seront coupées. Mais jusqu'à là, aucune preuve du contraire. Jusqu'à là, l'eau qui déballe comme une rivière en crue. Est-ce que vous me faites confiance? Finalement, c'était une belle épreuve, n'est-ce pas? Il devait y avoir une partie des sacrificateurs, sans doute, qui leur disait « Si ça ne marche pas, on va se faire emporter par les crues. Je ne sais pas où on va finir, mais ça ne va pas être de l'autre côté. » Ça me rappelle l'histoire qui est une histoire qu'on a entendue quand on était en France d'événements dans la ville où on était quelques années auparavant, qui montre bien qu'il ne faut jamais présumer de la grâce de Dieu. Un groupe qui donc avait décidé qu'ils étaient appelés à être les nouveaux apôtres de Jésus-Christ et qui ont décidé que pour le prouver, ils allaient marcher sur l'eau de la rivière qui passe au bout de la ville, entre les deux communes. Donc, vous imaginez, quelqu'un qui annonce ça, ça suscite la curiosité de toute la ville. Et malheureusement, ils ont prouvé que ce n'était pas Dieu qui les appelait à faire cela. Et que quand Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose, on ne marche pas sur l'eau. Ce n'est pas classé parmi les miracles pour rien. Et donc, on peut imaginer que les sacrificateurs à cette époque sont dit, les gars, c'est pas normal. L'homme ne marche pas sur l'eau. Donc, on va mettre les pieds dedans et Dieu a intérêt à bien faire ce qu'il a dit. Mais finalement, c'est ça la foi. C'est se dire, si ça dépend de moi, ça va être impossible. Devenir saint, si ça dépend de mes efforts, ça ne marchera pas. Donc, est-ce que franchement, ça vaut la peine d'essayer? Parce que je sais quel va être le résultat. Peut-être même, pour certains, on peut dire, j'ai déjà essayé et ça ne marche pas. Mais Dieu dit, faites-moi confiance. Mettez en œuvre votre salut. Je ne vous demande pas d'être des surhumains. Ce que je demande, c'est de me faire confiance, de croire qu'en vous sauvant, je vous sauve du péché, qu'en vous sauvant, je vous appelle à être saint, de croire que c'est moi qui donne le vouloir et le faire selon mon bon plaisir, et que si vous osez me faire confiance, si vous osez, entre guillemets, vous mouiller pour moi, vous allez voir que je répondrai à votre foi. J'honorerai votre foi et moi je vous donnerai le vouloir et le faire. Parce que tel est mon bon plaisir. Donc, dans l'histoire de Josué 3, les sacrificateurs ont saisi la parole de Dieu par la foi. Ils ont dit, allons-y les gars. Et ils ont pris l'arche de l'Alliance. Ils ont mis les pieds dans l'eau et l'eau s'est arrêtée. Une rivière en crue ne coulait plus jusqu'à ce que le peuple ait terminé leur passage de la rivière. Oui, Dieu aurait pu le faire à leur place. Mais Dieu demandait un engagement de foi. Dieu pourrait nous transformer en robots. Justement, ceux qui vont faire le cours de préparation de baptême, un des points qu'on regarde, c'est que l'eau du baptême n'est pas la solution miracle à notre nature pécheresse. Ça serait tellement facile pour Dieu à passer la baguette magique au-dessus de l'eau pour que en descendant l'eau pécheur, on sorte et « Tiens, je n'ai plus de problème de péché. » Je n'ai même plus envie de faire le moindre péché. Tout a disparu. La Bible nous dit que le péché reste accroché si facilement à notre nature humaine. Dieu nous demande d'agir avec lui par la foi. De dire, ben non, je ne vais plus agir de telle ou telle manière qui semblait normale avant, qui semble peut-être normale à ma famille ou à mes voisins ou à mes collègues parce qu'ils sont de cette génération perverse et corrompue du monde dans lequel nous vivons. Mais simplement, je crois que Dieu veut que je sois différent. Donc je vais accepter ce que dit Dieu, je vais me lancer dans ses voies et j'ai cette confiance que celui en qui je me suis confié va savoir garder tout ce dépôt que je lui ai donné. C'est lui qui va produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir dans ma vie. Ça nous rappelle ce qu'on a vu il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois maintenant, de la différence entre ce que la Bible appelle les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Chrétien charnel, je suis chrétien, je porte l'étiquette des chrétiens, je veux bien profiter de la vie éternelle que Dieu me donne, mais après, je me fais confiance pour ce qui est bien pour moi. Je me fais confiance pour mes définitions de ce qui est bien et ce qui est mal, ce que j'ai envie de faire, ce que je n'ai pas envie de faire. Dieu nous appelle à être des chrétiens à temps plein, entièrement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui acceptons de dire non pas, non plus, ma volonté, mais ta volonté soit faite. Qui sont prêts à dire, je ne fais plus confiance à mon cœur, je ne fais plus confiance à ce qui me semble agréable ou à ce qui me semble une bonne idée. Je vais te consulter, toi, et je vais faire ce que tu me dis. Eh bien, je vais donc confronter mes idées avec les tiennes et voir là où je dois changer des choses. Là où il y a quelque chose qui me semble bien, mais que tu appelles péché, je vais reconnaître que c'est péché et accepter que tu as raison. Quand il y a quelque chose que tu me dis est bien, que je n'ai pas envie de faire, je vais accepter que c'est bien. Parce que tu le dis. Ça implique donc le fait de lire la Bible pour voir ce que Dieu nous dit et nous montre être bien et mal. Ça implique méditer les textes bibliques pour voir ben, qu'est-ce que ça veut dire si j'applique tel principe que Dieu enseigne dans ma vie. Ça implique le fait de changer d'attitude, de valeur, d'idée, de comportement en fonction de ce que me dit le Seigneur, croyant que si j'ose le faire, si j'ai foi en lui, il me donnera le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et il me dit de le faire avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement parce que, on a vu la semaine dernière, la vie de Dieu sur le péché ne change pas. Ce n'est pas parce que moi je le fais que tout d'un coup Dieu trouve que ce n'est pas grave ou que c'est moins grave que si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait. Le péché reste le péché, quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit, quelle que soit la personne. Parce qu'on a vu la semaine dernière, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne dit pas tel comportement chez un tel, ah ben ça c'est péché. Bon, chez toi, c'est juste une petite faiblesse momentanée. Ou c'est juste parce que je t'ai fait comme tu es. C'est ton caractère. Donc on va dire que c'est pas grave. La définition de Dieu du péché reste toujours la même. Donc, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, acceptant ce que dit Dieu. Mais il nous dit de le faire non seulement avec crainte et tremblement, mais aussi avec foi. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Je ne vous demande pas de vous débrouiller tout seul pour le faire. Je vous demande de mettre en œuvre le salut que je vous ai donné par ma grâce, que vous avez reçu par le moyen de la foi. Donc, vous inquiétez pas, ça ne dépend pas de vous. Ce n'est point par vos œuvres. Ce que je vous demande, c'est de mettre en pratique, de mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai ajouté un S aux œuvres, parce que ça implique des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça qu'il demande de nous. Et qu'on le saisisse par la foi. Avec cette foi qu'il viendra nous aider par son esprit à accomplir cet appel qu'il a mis sur notre vie. Je sais que certains jours, le résultat ne sera peut-être pas à 100% parfait. Parce que tant que nous vivons dans ce corps humain qui n'est pas passé par la résurrection, nous ne sommes pas parfaits. Parce que le péché reste si facilement accroché à nous. Donc je dirais, dans ces moments-là, quand le résultat n'est pas tout à fait parfait, ne soyons pas abattus, n'abandonnons pas en disant, ah ben, je savais que ça ne marcherait pas, je savais que j'en serais pas capable. Au contraire, saisissons les promesses de Dieu par la foi et disons-lui, Seigneur, toi qui m'appelles à être sanctifié, à être saint, toi qui m'appelles à être irréprochable et pur dans ce monde, tu es celui qui a dit que tu produiras en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Donc Seigneur, par ta grâce et par ton esprit, fais-le. Produis en moi le vouloir et le faire pour que je devienne de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ, pour que je reflète ta gloire, pour que je devienne effectivement irréprochable et pur dans ce monde où je me trouve. Aide-moi, fortifie ma foi pour que je puisse saisir par la foi cette promesse que tu m'as faite qui me permettra de répondre à l'appel que tu as mis sur ma vie, qui me permettra de mettre en œuvre ce salut que tu m'as donné par ta grâce.